Stéphane Darac, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes le PDG de Macasi Group. On va parler avec vous de votre actualité, avec notamment une scission de vos activités. C'est important effectivement pour l'avenir du groupe, pour les actionnaires actuels. Qu'est-ce qui vous a conduit, je dirais, à en arriver là, puisqu'on avait eu il y a quelques années ensemble des discussions sur la stratégie du groupe, l'évolution vers notamment le data marketing dont on va reparler. Agences digitales et logiciels ne font pas forcément bon ménage.
Non, bah d'abord un petit retour en arrière sur un double contexte pour ce qui nous concerne, une double actualité. D'abord, une forte accélération commerciale depuis le début de l'année sur notre offre stratégique de data management platform. Donc un certain nombre de clients emblématiques qui ont signé avec nous et on va faire des annonces dans ce sens-là. Donc ça, c'est le premier élément de fond important. Et le deuxième, effectivement, c'est l'annonce de cette opération financière dont nous pensons qu'elle est fortement créatrice de valeur puisqu'elle a deux volets. Une levée de fonds qui nous permet d'accélérer sur nos investissements technologiques et un deuxième volet qui est donc la séparation des deux pôles d'activité du groupe. Donc effectivement, le groupe est sur 5 pays aujourd'hui, 220 collaborateurs, un chiffre d'affaires 26 millions d'euros l'an dernier, donc pour rappeler le contexte. Et par rapport à cela, donc effectivement, deux pôles que nous avons séparés et qui permettent d'être visualisés donc par nos investisseurs, le pôle édition de logiciels d'un côté et le pôle agence. Et cette opération répond effectivement aux attentes de nos actionnaires, des investisseurs, et j'en identifie deux attentes. D'abord, plus de lisibilité sur les métiers du digital d'une manière générale, ça c'est très clair. Et la deuxième attente qui était également de mettre une valeur, d'externaliser une valeur sur les actifs technologiques.
Alors, ça veut dire qu'une agence digitale ou une agence digitale peut vivre quand même seule sans cette partie logicielle?
Alors, il y a effectivement des complémentarités et des synergies, mais finalement, l'agence digitale, elle a un business model de service essentiellement. Dans notre cas, elle est apporteuse de data, donc elle fait de la collecte de data et d'audience qualifiée pour le compte des clients. Donc ça, c'est ce pôle d'agence qui est très internationalisé avec des clients grands comptes. Et de l'autre, donc l'activité édition de logiciels, certes complémentaire, mais qui peut vivre sa vie. Et d'ailleurs, les actionnaires qui nous accompagnent dans son financement ont souhaité investir dans la filiale logicielle.
Sur cette partie-là, ça a été notamment le lancement de plateformes publicitaires, ce qu'on appelle le RTB, pour les spécialistes. Ça a changé la donne, vraiment, cette nouvelle forme pour les annonceurs de commercialisation?
Oui, alors tout à fait. D'abord, nous sommes dans un marché sous-jacent en très forte croissance. Tous les analyses, que ce soit Gartner, Forrester aux États-Unis, prédisent une croissance entre 50 et 100% par an sur les prochaines années. Donc fondamentalement, le marché est en forte croissance et il répond à un besoin de nos annonceurs qui est finalement assez simple. C'est le besoin de personnaliser en temps réel la communication avec les clients et les prospects. Donc voilà, après, on apporte des technologies qui permettent de faire cela de façon intelligente. Donc la collecte des données, l'utilisation de ces données de façon intelligente et la personnalisation en temps réel. Voilà, c'est ça l'enjeu et tous les grands comptes aujourd'hui se rendent compte de ce besoin.
Il va falloir investir sur cette partie donc qui sera logicielle, donc plus dédiée à l'activité logicielle. Il va falloir investir encore.
Oui, tout à fait. Et c'est une des raisons pour laquelle donc nous séparons les deux pôles d'activité. D'un côté, l'agence qui a une croissance tout à fait raisonnable, qui est profitable et qui n'a pas besoin d'investissement important par nature. De l'autre côté, donc le pôle logiciel a lui besoin d'investissement important pour financer l'innovation technologique. Et donc nous avons déjà levé 4 millions d'euros. Donc c'est quand même une levée importante concomitamment avec l'opération qui est annoncée et nous allons lever 4 millions d'euros supplémentaires. Donc effectivement, un programme d'investissement important qui nous permet d'accompagner l'innovation technologique et de rassurer nos clients sur la roadmap concernant nos outils technologiques d'innovation et d'automatisation des actions marketing.
Alors si on revient encore un peu plus loin en arrière, l'introduction en bourse de la société qui ne s'appelait pas encore Macasi, vous aviez choisi volontairement la France et le Brésil en disant que finalement en France, le marché était assez concurrentiel et qu'il valait mieux aller à l'international. Aujourd'hui, ça reste quand même majoritairement la France. Est-ce qu'il y a d'autres pays sur lesquels vous avez déjà pu avancer?
Alors, nous avons beaucoup avancé à l'international parce que si je regarde notre chiffre d'affaires l'an dernier, c'est plus de 50% qui est fait à l'international. essentiellement au Brésil, mais également au Canada, en Australie et en Suisse. Donc nous avons vraiment internationalisé le groupe et l'introduction en bourse nous a beaucoup servi de ce point de vue-là en termes de notoriété, la levée de fonds qui a permis l'internationalisation. Maintenant, si je regarde vers l'avenir, je suis convaincu et je pense que c'est une analyse que font aussi les investisseurs du besoin de taille critique et de créer à partir de la France des leaders mondiaux. On a des exemples, hein, Criteo en est un. Il y a d'autres sociétés dont on parle moins dans notre écosystème comme la société Talend qui est extrêmement internationale. Et nous voulons jouer dans cette cour des grands et participer à la constitution de leaders internationaux à partir de la France. Donc c'est l'enjeu de demain.
Pour l'actionnaire qui a suivi la société, donc comment ça va se passer concrètement cette scission pour lui entre, parce qu'il y a eu quand même des opérations financières d'augmentation de capital, effectivement. Il va avoir quoi comme choix ?
Oui, alors effectivement, l'opération peut paraître compliquée, mais elle est en fait relativement simple, puisque nous proposions à tous nos actionnaires le même traitement, hein, bien évidemment, nous sommes une société cotée. Donc le choix entre la distribution de parts de la société de logiciel, donc de devenir actionnaire de la société de logiciel qui restera une société non cotée, ou bien de prendre la contrepartie équivalente en numéraire. Voilà, donc un choix à faire. Ce choix sera fait courant du mois d'août, donc nous avons l'Assemblée Générale le 1er août, qui décidera formellement de cette opération, et à partir de là, un délai d'une dizaine de jours donné aux actionnaires pour se positionner entre papier et cash.
Sur les perspectives donc de la future société qui restera donc cotée en bourse, on voit que cet environnement bouge beaucoup, hein, effectivement. Il y a à la fois des grands acteurs, des plus petits acteurs. Comment il va falloir naviguer dans ce nouvel environnement ?
Alors effectivement, c'est un environnement en forte croissance, donc une forte demande de nos clients. L'enjeu aujourd'hui pour nous, il est là. Il est de servir nos clients, de retenir nos talents, puisque nous avons des équipes qui sont vraiment excellentes dans le domaine du développement et de la technologie, donc savoir les motiver et les garder, et derrière, être en mesure d'innover. Donc c'est un marché en forte croissance. Il y a beaucoup d'acteurs, assez peu en Europe finalement. Donc nous allons nous concentrer sur l'Europe, l'Amérique du Sud, à partir de notre base au Brésil. Et on va également observer ce qui se passe aux États-Unis. Nous étions récemment dans le cadre d'UBI France, donc dans un programme à San Francisco, où nous avons pu en fait faire à la fois de la veille technologique et parler à nos partenaires, donc dans un écosystème que nous construisons autour de la donnée. Donc on est confiant par rapport à cet environnement, mais je pense qu'il faut savoir aller vite et savoir innover pour participer à cet enjeu.
Le mot de la fin, ça sera forcément les questions sur la rentabilité, la future rentabilité de l'entreprise pour les investisseurs. Quelles sont les promesses futures ?
Alors, je ne vais pas vous donner de chiffres sur l'avenir, on ne l'a jamais fait. Mais d'abord, la première chose, l'opération financière que nous avons annoncée a un avantage, c'est qu'elle sanctuarise l'activité agence, qui, comme on le sait, est profitable avec un degré de profitabilité ou un ratio normatif d'EBITDA d'environ 15% par rapport au chiffre d'affaires. Donc voilà, ça c'est la norme sur la partie agence. Sur la partie technologique, donc qui fait l'objet de la séparation et du spin-off, là en revanche, on aura des pertes sur les 18 prochains mois. On va atteindre l'équilibre dans 18 mois. C'est normal pour une société technologique dans laquelle on investit. Donc les perspectives sont tout à fait normales. Ceci dit, on reste confiant, bien évidemment. On a signé des grands comptes, on a une équipe de qualité, on a une technologie innovante. Par rapport à ces trois actifs, on est tout à fait confiant sur les prochains mois, les prochaines années.
Merci Stéphane Darac d'avoir fait le point avec nous.
Merci Didier.